Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Monsieur Mathieu Boula. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur au CPTS du DIWA, donc Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, et vous êtes ici pour nous parler donc de cette nouveauté en quelque sorte à l'adresse du public et aussi qui permet de coordonner les professionnels de santé et de pouvoir opérer peut-être un meilleur parcours de santé au niveau du public. Alors pour cela, il y aura plusieurs déclinaisons possibles. Et une des premières, c'est pour ce Octobre Rose, où vous avez une participation dans cet événement sur la détection donc, du cancer du sein. C'est un peu ce leitmotiv de Octobre Rose et ce rendez-vous d'une marche solidaire le 6 octobre. Alors...
Bonjour. Donc, en effet, la CPTS du DIWA est impliquée dans l'organisation de plusieurs événements. On relaie l'information d'une structure partenaire Rock'n'Rose pour une marche solidaire du 6 octobre. Et on organise avec l'hôpital du DIWA 2 dates, le 23 octobre et le 30 octobre, pour mieux informer la population sur les moyens de prévention, de détection et de soins précoces du cancer, du sein bien sûr.
Ça, c'était un des aspects. Hein,
parce que... Alors, si on parle de la CPTS de manière globale, c'est une association loi 1901 avec une gouvernance horizontale de 9 coprésidents qui vise à améliorer la qualité des soins de santé sur le territoire. Nos activités, elles sont issues de notre expertise locale du territoire, au-delà de ses spécificités géographiques, c'est-à-dire que c'est basé sur un diagnostic territorial de santé. Et c'est des activités qui sont menées de manière pluriprofessionnelle dans le cadre de l'EBM, donc l'Evidence-Based Medicine, ou la médecine fondée sur les preuves scientifiques. Historiquement, on est donc des soignants du territoire d'Iwa qui se réunissaient depuis plus d'une dizaine d'années de manière spontanée. Et tout ça, ça a amené à l'avènement d'une CPTS en 2021. Coordonner les soins et les professionnels de santé libéraux autour de la santé du patient. Il faut savoir que même si on est financé par la CPM, on souhaite conserver une autonomie dans les choix d'action de santé qu'on met en œuvre et on a une liberté sur les partenariats qu'on peut former avec des acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Donc on a une marge de manœuvre qui nous a semblé être très intéressante pour donner du sens et surtout un sens singulier à ce qui peut être fait sur le territoire et ce qui correspond à la population. Donc voilà, en termes de nos missions, elles sont très larges. C'est un balayage sur 6 types de missions. Donc on a une première mission qui est l'accès aux soins. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de description plus précise pour savoir que l'accès aux soins peut être difficile sur notre territoire et sur le territoire national aussi. Ensuite, on a une deuxième mission qui est l'organisation de parcours pluriprofessionnels. Donc, c'est là où la création...
Je vous interromps, ouais, juste pour la première mission, donc, oui. Cet accès aux soins. Là, à l'heure actuelle, j'entends autour de moi qu'il n'y a pas de médecin traitant disponible jusqu'à Saillant même, pour les habitants du DI ou du DIWA. Ça, c'est une réalité. Alors, comment s'articule cette volonté par rapport à cette problématique?
Alors, la première priorité qui a été identifiée comme étant pertinente par l'accord conventionnel interprofessionnel entre l'ARS, la CPAM et la CPTS du DIWA, c'est la détection et l'orientation des patients sans médecin traitant. Donc, on peut spécifier un peu plus cette catégorie sur des personnes porteurs d'affections longue durée ou bien des personnes sur une tranche d'âge particulière qui sont estimées comme étant les plus prioritaires. Et autre chose, au-delà de ça, on essaye de structurer un PDSA, c'est-à-dire un protocole de soins ambulatoires pour pouvoir faire en sorte que chaque cabinet et des plages horaires mises à disposition pour faire des consultations sans pour autant qu'ils puissent être affiliés à un médecin traitant. C'est-à-dire que c'est une stratégie aiguë ou de situation aiguë. Donc l'idée, c'est plutôt à ressources égales d'essayer de mettre à disposition des créneaux pour essayer de coordonner les prises en charge ambulatoires aiguës.
C'est la caisse primaire d'assurance maladie, il y a quelques dizaines d'années, qui avait initié cette obligation de médecin traitant, je crois, pour avoir une meilleure prise en charge de chaque personne. Là, il se révèle que depuis quelques années, il y a des déserts médicaux. Comment s'opère cette prise de conscience par la caisse primaire d'assurance maladie ? Est-ce que justement la CPTS est une des réponses à cette problématique ?
Alors en effet, la CPTS est proposée comme réponse territoriale à cette problématique pour mieux articuler le dialogue entre les médecins traitants et la CPAM. Mais il faut se rappeler qu'une CPTS ne fait pas de miracle non plus. Donc l'idée, c'est plutôt de fluidifier les pratiques au niveau territorial pour obtenir de meilleurs parcours et éviter des ruptures de parcours avec des ressources humaines identiques. Donc là où on souhaite, là où on pense pouvoir amener de l'amélioration, c'est sur la clarification des parcours, éviter les fausses routes et éviter que les patients se perdent dans le millefeuille de la santé publique.
Le deuxième point, c'est coordonner les parcours. Hein, ça, c'est ce que vous indiquiez, qui nécessite des interventions de plusieurs professionnels. Hein,
tout
pour
à fait.
Ça. Et, est-ce que c'est suffisamment doté sur le territoire du Diwa pour pouvoir justement remédier à cette coordination, notamment ?
Alors, les parcours pluriprofessionnels sont envisagés comme une solution pour justement améliorer l'accès et surtout la pertinence des soins procurés. Donc typiquement sur des entités cliniques complexes comme la douleur chronique, il s'agira de limiter les dépenses et de limiter les rendez-vous d'errance médicale, si vous voulez. Donc, l'objectif, c'est plutôt d'avoir un discours uni et approprié pour une pathologie particulière ou une entité clinique comme la douleur chronique ou l'insuffisance cardiaque pour qu'il y ait, si vous voulez, une bonne articulation entre tous les parties prenantes. Et ça va au-delà du soin libéral, puisque typiquement, sur l'insuffisance cardiaque, il s'agit de réintégrer le parcours Prado, donc de réintégrer le parcours Prado-insuffisance cardiaque pour que les points d'articulation entre la ville et l'hôpital puissent être les plus efficients possibles, quand bien même on ne va pas pouvoir obtenir un cardiologue de plus ou des médecins traitants en plus, etc. Donc la stratégie, elle est plutôt bonne dans le sens, je vais donner un exemple très simple, sur les aides-soignants, hein, ou sur les personnes qui font des visites à domicile. Si on empare ces gens-là d'une connaissance de détection précoce d'insuffisance cardiaque, eh bien, on va éviter de faire monter des gens, enfin, des patients, dans des situations aiguës qui vont leur être très délétères médicalement, bien sûr, mais qui vont aussi être délétères au système de santé lui-même. Hein, donc, c'est ça l'idée.
Alors, cette application résulte aussi de ce diagnostic hein, qui s'opère à vous entendre, ces réunions régulières de professionnels qui permettaient de voir un peu l'état de santé hein, des habitants. Ce diagnostic, comment s'est-il concrétisé et à l'aide de quelle structure ?
Le diagnostic territorial de santé, il va émaner en particulier du contrat local de santé, en partie du plan régional de santé, etc. Donc c'est une dynamique nationale de vouloir comprendre mieux ce qui se passe au sein de chaque territoire, tant en termes épidémiologiques qu'en termes populationnels. Donc là, à partir de ce travail de diagnostic territorial, on arrive à dégager des thématiques sur un territoire qui sont pertinentes ou jugées comme étant plus pertinentes que d'autres. Je vais prendre en exemple quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'investir encore, mais la thématique du transport et de l'isolement sous toutes ses coutures est assez pertinente pour notre territoire du Diwa. Et plus on va dans le haut Diwa, plus ça devient pertinent. Donc c'est ce genre de constats sourcés qui nous permettent par la suite de dire que ça vaudra le coup d'investir tel ou tel champ.
Est-ce qu'à l'avenir, on peut envisager justement, vous parlez d'une offre de santé ambulatoire. Est-ce que moi, naïvement, je pense, tiens, il y aura peut-être des véhicules qui iront sur le Haut-Diwa pour aller au-devant des patients ou des personnes malades ?
Alors, je pense que les mots ont des sens différents suivant comment on les écoute. Quand on parle de soins ambulatoires, c'est plutôt en opposition à un soin d'hospitalisation. Mais je rebondis quand même sur votre visualisation de transports qui vont au plus près des patients. Et je pense qu'il y a une marge énorme à faire. Et en effet, ce serait idéal de pouvoir se rendre dans le Haut-Diwa avec un dispositif mobile. C'est déjà ce qu'on a sur certaines équipes mobiles pour du soin psychiatrique. Il y a, je pense, un grand avenir là-dessus. Mais une fois de plus, nous, on n'est pas là pour se substituer à quelque chose. On est plutôt là pour comprendre ce qui se passe sur le territoire, essayer d'engager dans un dialogue les parties prenantes, de manière coordonnée, d'arriver à construire quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui se veut être plus efficient.
Voilà, on peut prendre un exemple d'un patient hein, sur le Haut-Diwa qui relève de plusieurs symptômes ou de maladies. Votre action, ça sera de coordonner au mieux le parcours de cette personne sur les propositions de médecine sur le territoire ou peut-être au-delà s'il y faut.
Oui, alors une fois de plus, je crois qu'il faut recentrer l'objectif de la CPTS, qui est plutôt de mettre en place des dispositifs et des parcours, plutôt que de s'occuper d'une personne en particulier. Il y a des gens qui font ça très bien sur les situations complexes et qui s'occupent de la personne en particulier. J'en profite pour faire un peu de pub pour le DAC, le dispositif d'appui à la coordination, qui lui va s'occuper d'une personne identifiée comme souffrant de plusieurs comorbidités, comme ayant des difficultés médicales, sociales et plus, et qui ne trouve pas de réponse sur le territoire avec les moyens du territoire. Donc ça, c'est l'objectif d'un autre type de structure. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est plutôt identifier, par exemple, une poche géographique où il y aura un défaut de prise en charge sur des soins particuliers et essayer de réfléchir ensemble comment on va pouvoir trouver des solutions. Une fois de plus, tout reste à construire, c'est nouveau. Donc, on essaye d'être dans une réflexion collective, transversale et multi-acteurs.
Un autre exemple, c'est une jeune femme qui a eu une grossesse. Elle se rendait donc régulièrement à cet hôpital. Et à chaque fois, elle avait un nouveau médecin qui l'a traité. Et elle s'est rendue compte assez vite que les médecins ignoraient les prescriptions du précédent. Donc, elle s'est retrouvée dans des situations où elle a pris peur et finalement, elle est partie à Romans. Donc, ça, c'est l'exemple. Alors, la question est...
Que peut-on faire pour cette dame ou pour les personnes futures qui auront des problèmes similaires. Justement, là, se trouve dans ce cas précis la démonstration d'un manque de continuité de soins, d'un manque de transmission d'informations, et je pense qu'on a de grandes améliorations possibles dans ce champ-là. Une des premières choses, c'est le fait d'arriver à avoir des moyens sécurisés de transmission d'informations, d'identifier les gens qui sont en errance médicale, de limiter le nombre de consultations d'urgence à l'hôpital sans qu'il y ait de suite constructive pour cette patiente-là, si on prend cet exemple-là. Et si on devait faire le calcul du coût d'une prise en charge non coordonnée, elle coûte cher à tout le monde. Donc l'objectif, ce serait plutôt d'arriver à être sûr que lorsque on se trouve en présence d'une situation complexe ou de consultations répétées sans continuité de parcours, d'identifier ces gens-là et d'arriver à... Premièrement, les attribuer à un médecin et deuxièmement, de structurer de manière incrémentale une prise en charge adaptée pour cette personne. Je crois que là où nous, on peut faire vraiment la différence, pas instantanément, mais sur plusieurs années, c'est déjà de donner une littératie numérique pour les soignants comme pour les patients, en fait. Je ne suis pas forcément fanatique d'informatique, mais je peux vous dire que la transmission d'informations sans déperdition et sans confusion, c'est un vrai enjeu de santé publique pour la CPAM, mais pour les soignants aussi et pour les patients. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut être joué en notre faveur. Certes, ça va faire tourner des serveurs et certes, ça va faire tourner les satellites, mais rien n'est parfait et je crois qu'il y a une notion de priorisation et je pense que cette numérisation, qu'on le veuille ou non, on ne va pas y couper, mais surtout, on va en avoir besoin pour mieux coordonner l'ensemble des parties prenantes dans le soin de l'individu.
Une autre question naïve, qu'est-ce que le dossier médical ? On nous parle souvent de notre dossier médical, qu'est-ce qu'on y trouve ? Depuis quand sont traitées les informations ? De quelle période ? Jusqu'à quand ? À savoir, justement, il y a la CPAM incluse dans ce dispositif qui est initiatrice. Quel est son rôle dans ce type de démarche ? L'ARS également, j'ai envie de poser la question, quelles sont leurs implications à chaque niveau de cette organisation ?
Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus à même de répondre à ces questions, donc je vais répondre humblement. Il faut contextualiser avec le fait que on a un petit peu de retard par rapport à d'autres pays où la numérisation a pris beaucoup plus vite. Donc on a un retard assez colossal de manière généralisée sur le territoire national. Nous, on ne fait pas exception à ça. Et il faut aussi savoir que ce soit la CPAM ou l'ARS ou l'Agence nationale du numérique en santé, ils sont en cours de développement sur le fait de rendre ces dispositifs plus intuitifs à l'utilisation et plus au service finalement des professionnels de santé comme des patients. Donc eux cherchent aussi des solutions pour protéger les données sensibles. Ça, c'est un des points centraux de la chose. C'est que le matériel numérique produit à partir des données du patient sont considérés comme sujets sensibles et donc auxquels on se doit une confidentialité absolue. Lorsqu'on regarde les pratiques sur notre territoire, eh bien, c'est des pratiques qui sont basées sur du pragmatisme et bien souvent qui vont avoir des difficultés à remplir ces critères-là. En outre, s'ils le font, c'est pas pour rien, c'est que justement, c'est un peu fouillis au niveau du numérique. C'est fouillis pour les patients, c'est fouillis pour les praticiens de santé et c'est en cours de développement pour les institutions. Donc je crois que c'est important de se rappeler que tout ça, c'est quand même au service du patient. Il n'y a pas, de dessein maléfique derrière tout ça. La volonté, c'est pas de contrôler quoi que ce soit. La volonté, elle est d'avoir une cohérence sur les parcours et une protection des données sensibles afin de pouvoir mieux servir l'ensemble des parties prenantes.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Si je comprends bien, la CPAM a une prise de conscience du coût, hein, justement, de ces dispositifs inexistants à l'adresse des patients ou des personnes malades. Et donc, cette mission de CPTAS, c'est de peut-être mettre un petit peu d'huile dans les rouages, en quelque sorte, pour un meilleur parcours de santé. Quelle est la part du service public et peut-être, il y a aussi le domaine privé, hein, certains professionnels sont plutôt d'ordre libéral. Donc, comment articuler, conjuguer ces deux aspects de la médecine d'aujourd'hui ?
Alors, on dépasse un petit peu le cadre de la présentation de la CPTS à travers cette question. La première désambiguation que je souhaiterais faire, c'est entre privé et public et l'activité libérale. En fait, un libéral, c'est quelqu'un qui de santé, c'est quelqu'un qui va travailler pour la santé publique. Il est rémunéré par le système de santé publique et la seule chose, c'est qu'il n'appartient pas à une institution. Ce que la CPTS propose, c'est justement de donner un visage à cet exercice libéral ou cet exercice de ville ou cet exercice de soins ambulatoires, vous choisissez ce que vous préférez comme terminologie, mais de donner une véritable identité à ces acteurs dits libéraux. Je pense qu'on est loin quand même de la thématique de la financiarisation de la santé. Je crois que la financiarisation de la santé, c'est quelque chose de très préoccupant en ce qui me concerne, mais on est à un étage complètement différent de l'organigramme. Et ça, malheureusement, ni une CPTS, ni vous, ni moi, ni personne, pour le moment, ne pourra limiter cette avancée-là. Mais je crois que voilà, il faut recadrer les questions sur qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire, comment on peut faire pour que le service institutionnel public, que ce soit l'hôpital, des centres médico-sociaux, des centres de santé sexuelle et des professionnels de ville puissent travailler ensemble. Ça, c'est une première question qui me semble constructive. Après, l'articulation public versus privé au plus haut niveau de l'organisation nationale et le problème de la financiarisation, c'est quelque chose de stratosphérique par rapport à tout ça. Et ça ne veut pas dire que je suis d'accord, bien sûr.
Ma question m'est revenue parce que j'avais eu un trou. C'est ce coût, d'ailleurs, de ces dispositifs pour la caisse primaire d'assurance maladie. Cela vaut le coup par rapport au déficit de santé dans certains territoires.
Alors, je pense que c'est un pari. En effet, on ne va pas se le cacher. Une CPTS ou n'importe quelle organisation qui travaille avec des êtres humains et qui travaille avec des moyens sur un territoire, ça coûte des sous, c'est important. Par contre, il faut se rappeler quand même que si le challenge est relevé de créer un maillage territorial qui est efficient et qui permet à ressources égales, humaines je parle, à ressources humaines égales, qui permet d'augmenter la qualité des soins, la pertinence des soins, la qualité des parcours, la qualité communicationnelle entre les différents acteurs, eh bien, si ce challenge-là est réussi, on va quand même limiter énormément de coûts surnuméraires, j'ai envie de vous dire. De toute manière, là je repars sur quelque chose de très global, en termes de santé publique, on ne va pas rattraper le déficit de professionnels de santé formés. Donc il y a beaucoup de stratégies, de patchwork momentané, et ça c'est ok dans un court terme, mais dans le moyen et dans le long terme, la seule chose sur laquelle on peut miser très très fort, c'est la prévention. En fait, il vaut mieux prévenir que guérir, ça ne vient pas de moi, vous vous en doutez, mais c'est un investissement de moyen terme qui me semble être le plus important. Et je pense que, pareil, si on compare sur la scène internationale, on a du retard là-dessus. Donc il faut mettre le paquet sur ce qui va favoriser la prévention, ce qui va favoriser la coopération des gens et qui va se rapprocher d'un exercice d'intelligence collective. Et ça, je pense que ça peut parler au territoire d'Iwa.
Voilà, les préventions, les actions de prévention, notamment celle d'Octobre Rose, ça c'est une vitrine de cet aspect.
Alors tout à fait, on a cette premier axe de prévention sur Octobre Rose, mais aussi sur le cancer colorectal et sur le col de l'utérus à venir pour mars et juin. Et puis on a aussi un autre événement important qui est porté par le CLSM, le Comité Local de Santé Mentale, mais auquel la CPTS participe, sur la semaine d'information sur la santé mentale, le 16 octobre. On sera tous les acteurs impliqués seront devant la cité scolaire du Diwa pour pouvoir organiser une journée d'information multi-acteurs et sur la prévention de la santé mentale comme étant un marqueur de notre santé en général. Et ça, c'est un autre axe de prévention qu'on a décidé de soutenir. En termes de prévention, il y a aussi une mission qui prend pas mal d'espace dans la CPTS actuellement, qui est, on va dire, une mission post-Covid, à savoir de se préparer à l'éventualité de situations sanitaires exceptionnelles. Donc ça va de la canicule jusqu'à d'autres événements non souhaitables, que ce soit des incidents, des accidents ou des épidémies ou de ce genre de choses. Donc ça, c'est pareil, ça peut être vu comme une préparation et une forme de prévention vis-à-vis de la non-préparation et de la non-coordination des différents acteurs. Donc on est toujours dans cette idée de se préparer, et en se préparant ou en faisant de la prévention, eh bien, on peut éviter des choses qui sont extrêmement coûteuses pour le territoire, pour l'État et pour tout le monde, quoi.
Oui, notamment cette crise du Covid que l'on a vécue dans les années 2020-2021, ça a mis en évidence énormément de carences dans l'organisation. Est-ce que pour vous, justement, c'est une manière de rechercher des dispositifs ou de mettre le point sur ce qui marcherait bien pour la population et peut-être aussi à quel type de niveau, est-ce qu'il y aura des niveaux peut-être intransigeants sur notamment la quarantaine pour des personnes qui seraient atteintes? Enfin, je m'égare, je laisse tomber la question, mais, mais vous réfléchissez à tous ces aspects-là, justement.
Alors, de manière très technique et très simple, il s'agit de comprendre la gradation des différents incidents, parce que des incidents, il y en a toujours. Alors ça ne vient pas jusqu'aux oreilles de tout le monde tout le temps, mais des incidents de canicule, de rougeole, d'inondations, voilà, ça arrive tout le temps. Donc il y a la question de gradation, on parle de vigilance. La crise, personne ne souhaite y aller, mais en vue de l'épisode de Covid, on a bien compris que ça pouvait arriver, que ça pouvait arriver assez vite. Donc l'idée, c'est plutôt de créer des circuits de communication et des circuits d'alerte possibles finalement d'apprendre de l'expérience du Covid pour au moins pouvoir avoir les moyens techniques d'interagir avec les autres acteurs sanitaires. Donc typiquement, une CPTS ne va pas porter à elle seule la responsabilité d'une telle gestion. Par contre, le fait de pouvoir avoir des libéraux qui puissent se mettre à disposition de manière orchestrée, si jamais la vigilance nous amenait à à la crise, ça fera toute la différence en termes de fluidité, de prise en charge et de mise en action.
Et donc, il y a aussi un autre aspect que vous traitez, c'est l'implication des usagers et des professionnels de santé au travers de formations pluriprofessionnelles. Alors, pour cela, comment se décline cette adresse au public, notamment ?
Alors, l'adresse au public, pour le moment, elle est uniquement sur des actions de santé publique comme on a pu mettre en place avec le CLSM, donc le Comité Local de Santé Mentale, et la CPTS et plein d'autres acteurs pour le 16 octobre, ou sur le 23 et le 30 octobre pour Octobre Rose. Donc ça, c'est des adresses directes à la population. Par la suite, je pense qu'il serait souhaitable, et là je m'exprime uniquement en tant que coordinateur et je ne m'exprime pas au nom de la coprésidence de la CPTS, mais il me semble logique qu'on puisse avoir une maison des usagers ou qu'on puisse impliquer les usagers dans la réflexion de ce qu'une CPTS peut devenir. Il faut se rappeler qu'on est encore tout jeune et qu'on a déjà eu pas mal d'ambitions sur la réalisation de structuration de parcours et d'action de santé publique. Donc il nous faut un peu de temps encore, renforcer un peu nos épaules et notre structure avant de pouvoir mettre à disposition du temps et de l'argent pour développer ce comité des usagers.
La dernière mission aussi, c'est celle d'accompagner les professionnels de santé et les internes qui arrivent sur le territoire. Il y a une grande frilosité de cette profession sur notre territoire. Est-ce que c'est dû à un manque de logement ou alors manque de moyens ? Quelles sont les problématiques et qu'est-ce que vous allez pouvoir permettre vous-même ?
Alors en effet, sur nos six missions dont j'ai parlé, la dernière est l'accompagnement des professionnels de santé. L'avant-dernière, la mission 5, c'est donc la qualité et la pertinence des soins, on en a déjà parlé. Mais donc sur cette mission accompagnement des professionnels de santé, c'est important de se rappeler qu'on a un territoire qui est attractif de par sa singularité et c'est ça qu'on souhaite mettre en avant. Et en effet, force est de croire que le fait de pouvoir accueillir des stagiaires, que ce soit pour des internes de médecine ou des stagiaires sur des professions paramédicales, si on arrive à leur offrir une expérience positive, on aura quand même beaucoup plus de chances de les retenir ou de les accueillir de manière pérenne sur notre territoire. Actuellement, les conditions d'accueil possibles pour ces internes restent plutôt précaires. Donc, c'est une thématique qu'on a décidé d'investir. Mais une fois de plus, nos moyens sont existants, mais ne sont pas infinis. Donc, je crois qu'il va falloir dissocier des stratégies de court terme, à savoir une contribution modeste, mais une contribution à améliorer l'existant sur quelques années et ensuite d'avoir une réflexion plus large et avec les acteurs existants sur le territoire, à savoir la mairie si elle le veut bien, l'hôpital si il le veut bien et peut-être même aller chercher des fonds au niveau d'organismes plus grands, que ce soit au niveau départemental, régional ou peut-être un fonds d'investissement européen, mais en tout cas, c'est un projet qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde, parce que le nombre de maîtres de stage est en augmentation, des maîtres de stage pour les internes, et qu'il faudrait que notre capacité d'accueil soit proportionnellement accrue. Donc, on a encore quelques années pour trouver la solution miracle et on ne l'a pas encore trouvée, mais on y réfléchit fortement.
En désespoir de cause, il y a 3-4 ans, Saint-Nazaire-le-Désert s'est équipé de consultations numériques grâce à un cabinet de médecins de Lyon qui proposait ce service à distance avec un local aménagé dans le village de Saint-Nazaire. Est-ce que vous en avez eu l'écho de cette expérimentation et qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, je n'ai pas eu écho de cette action-là, mais elle m'intéresse fortement dans son caractère créatif, dans son caractère de mise à disposition sur un territoire ultra-rural de compétences grâce, comme je vous disais, à la créativité des gens qui l'ont inventé. Je ne vous dis pas qu'on va pouvoir dupliquer la même chose, mais je pense qu'on peut s'inspirer de ce genre de réalisation pour essayer de créer quelque chose au plus près des gens. Moi, je crois très fort au fait que le Haut-Diwa en particulier pourrait bénéficier sur des actions ciblées du déplacement de certains professionnels de santé, que ce soit physiquement ou numériquement, pour pouvoir, si vous voulez, apporter le soin adapté à ces populations-là. Sur les histoires de médicobus, ça existe ailleurs en France, mais il faut savoir que ces médicobus sont extrêmement onéreux à la mise en place. Dans un monde rêvé, j'en aurais déjà créé plusieurs, mais c'est extrêmement onéreux et ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que c'est des choses qui se mettent en place plutôt sur 5 à 7 ans que sur quelque chose de l'ordre du trimestre ou de l'année.
En médecine, en fait, il faut toujours penser en moyen terme.
Non, je crois que c'est important de stratifier les choses en termes de degré d'accessibilité au projet, enfin de degré de faisabilité du projet, et puis aussi de respecter la notion de priorisation. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et qui est le plus important ? En fait, c'est un vaste sujet que la santé, et je pense qu'on est quand même aujourd'hui un peu plus à même, science à l'appui, de savoir que les déterminants de santé ne se placent pas uniquement sur la réparation, mais aussi sur l'amélioration du cadre de vie, sur l'amélioration de la littératie en santé, sur la responsabilisation des pouvoirs publics comme des professionnels de santé et des patients. En fait, on est tous dans le même bateau de la santé. C'est difficile de cloisonner les choses.
C'est pour vous aussi une activité, la pédagogie à l'adresse du public pour cet accès aux soins ?
Je vais répondre personnellement en tant que Mathieu Boula, mais je crois qu'en effet, l'acquisition d'une connaissance est peut-être le substrat nécessaire à l'amélioration de santé de tout un chacun.
Alors, il y a un site internet, certainement, de la CPTAS du Diwa.
Alors, pour la CPTS du Diwa, on est en réflexion pour créer un site web pour pouvoir mieux communiquer auprès des patients comme auprès de la population, comme auprès des professionnels de santé. Mais je vous le répète, on n'a que une petite année et demie d'exercice.
Oui, donc 15 mois.
Voilà, on est dans cette réflexion-là et si cette interface Internet voit le jour, j'espère qu'elle sera utile pour tout le monde.
Sinon, il y a le contact humain avec l'avant-poste où vous êtes installé.
Alors moi, je suis le seul salarié de l'association pour le moment. Donc c'est moi qui suis là au quotidien, du lundi au vendredi, sur le terrain administratif, organisationnel et sur la communication. Preuve en est, je suis là aujourd'hui pour vous.
Mathieu Boula, merci beaucoup d'être venu sur Air du Voix et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.
You can tell from her form she's built a little different. One look in the eye and she's gonna make you listen. A woman amidst the divine and the truth. She undressed the soul and the self's on the loose. Singing, I don't know. Say
from my reaction, she's made the decision. The inner child that was lost has been given permission to speak without fear of a swift retribution. The boxer felt trapped, it is all an illusion. Saying, 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 I don't know.
See you.